Vous écoutez
RMC. 5-7, le Morning RMC.
Et c'est l'heure du journal de Solène Gardré. Bonjour Solène.
Bonjour à tous.
Après la canicule, les incendies frappent le sud de la France.
Et on sera sur place dans l'Aude où des habitants ont dû être évacués en urgence. Pas de campagne présidentielle sous bracelet électronique. Marine Le Pen s'exprimait hier sur sa possible condamnation la semaine prochaine. Et puis la Coupe du Monde de foot, qualification in extremis de la Belgique contre le Sénégal. Ça passe aussi en huitième pour l'Angleterre et les États-Unis.
6 départements en vigilance incendie.
Des Pyrénées-Orientales au Vaucluse, en passant par l'Aude, où plus de 150 personnes ont été évacuées hier dans les communes de Pouzol, Minervois et Maillac, après que le feu a parcouru 600 hectares. Des habitants rencontrés par l'envoyé spécial de RMC sur place, Philippine Boulet.
Romain a vu les flammes dévaler la colline et s'arrêter à quelques dizaines de mètres seulement de chez lui.
Vu que c'est sec, ça part direct comme une torche, quoi. Après, j'avais un gros tas de bois sur le côté. Là, il y a tout qui a pris feu en 30 secondes.
Il évacue alors sa maison avec sa famille et ses animaux.
Là, quand c'est vraiment en face de chez toi, que t'as des flammes de 3 mètres, ouais, là t'as peur. Ouais. On est parti vite. Les affaires, tant pis, c'est pas grave.
Daniel aussi a dû quitter sa maison. Lui est né ici. À 78 ans, c'est la première fois qu'il voit la garrigue dévorée par les flammes.
Malheureusement, quand on la voit partir en fumée, je vous dis, les pleurs sont là, on ne peut pas les supporter. On la parcourt toute l'année. Il y a la période de chasse, il y a la période où on va ramasser des asperges. Les promenades, les enfants adorent aller dans la garrigue.
Anaïs aussi a dû quitter précipitamment son lotissement.
Ça nous met en colère, en fait.
L'origine de l'incendie reste inconnue à ce stade, mais elle redoute une imprudence humaine.
Ils disent, j'ai seulement jeté mon mégot et au final, toute la colline a brûlé. Nous, on a été évacués en urgence, on a failli perdre nos maisons aussi. Pour nous, c'est pas des blagues, en fait.
Après plusieurs heures, tous ont finalement pu regagner leur logement pour la nuit.
Des feux aussi dans l'Hérault, 200 hectares brûlés au nord de Narbonne et deux incendies aussi au nord de Marseille à Rognac et Lançon-Provence. Marseille où le Premier ministre Sébastien Lecornu se rend cet après-midi pour présider une cellule interministérielle de crise sur la canicule.
Canicule qui justement, Géraldine nous le disait, se calme enfin.
Et à 6h ce matin, il n'y a plus aucun département en vigilance orange. Le Var, les Alpes-Maritimes et la Corse sont rétrogradés en jaune. Mais vous le savez, on se prépare déjà à une nouvelle vague de chaleur attendue dès ce week-end dans le sud. Vague qui inquiète particulièrement les éleveurs de volailles. Près de 3 millions d'animaux sont morts la semaine dernière à cause de la chaleur. La ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, a donc annoncé hier le déblocage de prêts de trésorerie pour que les éleveurs adaptent leurs bâtiments. C'est ce que va faire Erwan Etriard, éleveur en Ille-et-Vilaine. Il a perdu 1000 poules la semaine passée.
Il ne faut pas faire l'autruche, hein. Il va falloir trouver des solutions. Clairement, on ne va pas laisser nos animaux mourir comme ça. Ça fait quand même mal au cœur de voir des animaux en souffrance. Nous, en tant qu'agriculteurs, on ne travaille pas pour ça. Et économiquement, c'est pas gérable. Donc, en fait, aujourd'hui, on est en statique. C'est le vent qui passe dans le bâtiment qui refroidit. Mais là, comme il n'y a pas de vent et qu'il y a des grosses chaleurs, au final, ça ne va pas. Là, en fait, on va repeindre la toiture en blanc de façon à vraiment faire en sorte que la toiture n'absorbe pas la chaleur. On va tout réisoler avec de la ventilation. On est quasiment entre 150 et 250 000 euros. Je pense que ce serait beaucoup plus judicieux d'avoir des prêts à taux vraiment réduit que des prêts trésoreries à court terme.
Marine Le Pen exclut une campagne sous bracelet électronique la semaine prochaine, le 7 juillet. La Cour d'appel de Paris tranchera et dira si Marine Le Pen pourra se présenter une quatrième fois à l'élection présidentielle. Pour l'instant, elle est inéligible, condamnée en première instance dans l'affaire des assistants parlementaires du Front National. La chef de file des députés du Rassemblement National s'exprimait hier sur LCI.
Non, j'ai pas peur. La peur n'a pas sa place. On peut avoir un sentiment d'injustice, d'être privé d'un combat qui a été et qui reste le combat de ma vie. Mais si je peux être candidate, je serai candidate. Pour peu que je puisse faire campagne. Car s'il s'agit de m'autoriser à être candidate, mais de m'empêcher en réalité de mener une campagne tout à fait librement, vous entendez bien que ce ne sera pas possible.
Qu'est-ce que vous voulez dire? Avec un bracelet?
Bien sûr.
Ouais.
Je ne peux pas dépendre d'un magistrat pour m'autoriser à aller faire un meeting ou aller sur un marché à Hénabon, vous voyez.
Il est 6h05 et c'est un chiffre RMC que l'on vous dévoile ce matin à la veille des vacances d'été.
Une période qui concentre plus d'un quart des accidents de la route. Et vous le savez, les plus vulnérables sur les routes, ce sont les jeunes, les 18-24 ans. Leur taux de mortalité est deux fois plus élevé que la moyenne nationale. Eh bien, ça pèse sur les parents des jeunes conducteurs. 8 parents sur 10 redoutent un accident et estiment que leurs enfants ont un comportement dangereux sur la route. C'est une étude Opinionway pour Direct Assurance, des parents rencontrés par Lou Garnier.
Presque 2 ans que le fils de Pauline a son permis et pourtant...
Toujours peur. C'est peut-être l'anxiété de la maman.
À 19 ans, son fils conduit peu, alors le savoir au volant est une source de stress, notamment quand il conduit la nuit.
Je m'envoie un message quand t'es bien arrivé. On peut oublier d'envoyer le message et du coup, c'est l'angoisse absolue et on n'ose pas appeler parce qu'on se dit s'il est sur la route et voilà. Je n'arrivais pas à m'endormir tant qu'il n'était pas rentré.
Selon l'étude, ils sont 8 parents sur 10 à estimer que leur enfant, jeune conducteur, adopte un comportement dangereux au volant.
C'est la vitesse, c'est l'alcool au volant, c'est le téléphone, la fatigue, il faut savoir s'arrêter toutes les 2 heures. 90% des accidents sont évitables.
Caroline est la maman d'une jeune femme de 23 ans.
On sait très bien que l'expertise vient avec l'expérience. Donc à l'âge de 23 ans, on ne sait pas encore bien manœuvrer ou en tout cas avoir les bons réflexes.
Moins de réflexes et donc un temps de réaction plus lent. Gaëlle a 20 ans, elle reconnaît quelques erreurs d'inattention qui inquiètent parfois ses parents.
Ils me disent de faire attention prioritaire à droite et si à l'autoroute, genre pas dépasser les limitations vu qu'on est en période probatoire et que ce n'est pas les mêmes. Donc pas 130.
Par peur des accidents, elle évite de conduire la nuit et lorsqu'il pleut.
Vous avez entendu les témoignages notamment des parents, si vous êtes parents, si vous avez des enfants qui ont 18, 20 ans, qui prennent la voiture là pour aller en vacances, appelez-nous ce matin, faites le 32-16, laissez vos messages sur WhatsApp 06-12-424-424. Est-ce que vous êtes inquiet particulièrement l'été quand vous les voyez partir en vacances avec leurs copains en voiture? Est-ce que vous dites tout là, j'ai peur qu'il arrive une catastrophe? Est-ce que vous êtes plutôt serein? Comment vous faites aussi pour essayer de faire en sorte qu'ils se comportent bien, vos enfants jeunes conducteurs sur la route? Et puis si vous êtes jeune conducteur vous-même, est-ce que vous comprenez finalement cette inquiétude des parents?
Vous n'appelez pas au volant, hein, par contre.
Non, vous vous garez, vous nous appelez et vous nous dites si ça vous agace finalement l'inquiétude des parents permanente là. Vous nous appelez quand vous nous appelez quand vous arrivez, etc. Vous nous le dites au 32-16. Vous laissez vos messages sur WhatsApp 06-12-424-424.
Et 3 nouvelles équipes qualifiées pour les 8e de finale de la Coupe du Monde.
RMC, radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Cette nuit, les États-Unis ont battu la Bosnie-Herzégovine 2-0. Quelques heures plus tôt, l'Angleterre a vaincu la République démocratique du Congo 2-1, longtemps menée et finalement délivrée par un doublé de Harry Kane. Scénario similaire pour la Belgique, menée 2-0 par le Sénégal à quelques minutes de la fin du match et qui a finalement égalisé Nicolas Pelletier pour vaincre les Lions 3-2 en prolongation.
Tout sourire après ce scénario à rebondissement, le sélectionneur belge Rudy Garcia résume la rencontre de son équipe.
On avait envie de retourner la table et on l'a fait. Comme deux boxeurs, les équipes ont répondu coup pour coup.
Pourtant, jusqu'à la 86e minute, la Belgique semblait dans les cordes, totalement dominée par le Sénégal. Dès le coup de sifflet final, le sélectionneur des Diables Rouges donnait une leçon tactique à son adversaire.
On connaît ces équipes-là, ils perdent leur structure tactique. On savait aussi qu'à 2-0, ils feraient tout pour protéger leur but, ce qui, à mon avis, une grave erreur. Rappelez-moi, quand on mènera 2-0, de pas faire ça. Parce que quand vous prenez un but comme ils l'ont pris à 2-1, le match a changé d'âme.
Le Sénégal avait retrouvé un visage séduisant, très proche de celui de la Coupe d'Afrique en début d'année, avant de s'écrouler en fin de match. Le sélectionneur Papthiou accuse le coup.
C'est cruel cette défaite, mais maintenant le match ne dure pas que sur 80-85 minutes. Malheureusement, maintenant il faut féliciter l'équipe de la Belgique qui est passée et nous continuer à travailler.
Éliminés en 8e de finale en 2022, les Belges tenteront de faire mieux face aux États-Unis lundi soir à Seattle.
Et reprise des matchs ce soir à partir de 21h avec Espagne-Autriche, à suivre bien sûr sur RMC.
RMC, radio officielle de cette Coupe du Monde. Merci beaucoup Solène Garbré, c'était le journal de 6h.